Voilà. Alors d'abord, moi aussi, je remercie tous ceux qui ont bien voulu assister à cette présentation. C'est vrai que c'est une de mes passions, l'inbound marketing, et que j'ai eu la chance d'être un des pionniers dans. J'ai écrit 3 livres sur l'inbound marketing que je vous incite peut-être à feuilleter ou à lire, car je trouve que c'est une démarche qui est tout à fait d'actualité, avec une démarche beaucoup plus soft, comme les Américains parlent de nudge marketing. Et l'inbound marketing, à mon sens, est tout à fait d'actualité car ce marketing se veut, je dirais, respectueux des clients, respectueux des gens à qui ça s'adresse, parce que ce n'est pas un marketing intrusif. Alors, d'abord, pourquoi le mot inbound? Eh bien, ce n'est pas de moi, c'est du pionnier véritable qui est américain et qui a d'ailleurs créé une agence qui marche très très bien, qui s'appelle HubSpot, et lui, il s'appelle Brian Halligan, et il a créé Inbound Marketing. Alors, juste pour l'anecdote, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Boston, c'est sa ville où il exerce, natale, et donc, je lui ai dit, mais pourquoi ça s'appelle Inbound? Alors, il m'a montré de sa fenêtre, de son agence, qu'en face de sa fenêtre, il y a un métro, et il y a une station de métro. Et dans la station de métro, au départ, à gauche, il y avait écrit Inbound, et à droite, il y avait écrit outbound. Et il dit, tu vois, Gabriel, quand les gens viennent, prennent le métro, c'est qu'ils le veulent bien. Donc, ils passent par la porte inbound. Et donc, c'est un acte volontaire. Et ensuite, quand ils sortent, évidemment, on les conduit. Et donc, il a imaginé que sa démarche, il reprendrait le terme du métro et il l'appellerait inbound marketing. Et moi-même, quand j'ai écrit mon premier livre sur l'inbound marketing en 2015, eh bien, j'ai repris exactement le même terme en anglais, inbound marketing, et je trouve que c'est pas plus mal. Alors, pourquoi de chasseurs devenez gibier? Eh bien, tout simplement, c'est que la mentalité que devraient, à mon sens, avoir toutes les entreprises, c'est de rechercher l'envie, le désir des prospects à venir effectivement consulter le fournisseur tel ou tel. Et dans notre agence, vraiment, la phrase mythique, c'est le désir précède le besoin, parce que quand vous avez envie et quand un produit est devenu désirable, eh bien vous êtes moins à même d'exercer un œil encore plus critique que l'on a quand on exerce l'envie d'un besoin. Voilà, donc on va démarrer. L'expression de l'inbound marketing, c'est comment faire venir à soi les clients au lieu d'aller les chercher. Effectivement, c'est l'inversion de la démarche marketing push, on est en plein dans le marketing pull. Voilà, Jean-Luc. Alors, ce que nous allons vous proposer, c'est 10 engagements pour changer d'air, c'est-à-dire pour avoir une volonté de différencier, évidemment, votre démarche des autres démarches. Voilà. Alors, ce que j'aime bien écrire, c'est une main toute seule ne peut applaudir, c'est un proverbe arabe. Et ce proverbe, effectivement, montre que, eh bien, il faut créer, aujourd'hui c'est très à la mode, de la co-création, du partenariat. Ce n'est plus le client face à un fournisseur, il faut rechercher effectivement une démarche partenariale. Alors, le premier point, c'est qui est essentiel, d'ailleurs aussi bien en inbound marketing que dans d'autres démarches, c'est d'être différent. Alors, comment être différent? Voilà, Jean-Luc. Eh bien, il faut élaborer, selon moi, une stratégie de positionnement. Or, le positionnement, point de salut. Jean-Luc. Alors, avant, comme je l'ai dit, il y avait comment dirais-je, il y avait la pyramide des besoins de Maslow que vous connaissez tous, qu'on a tous appris dans nos écoles. Alors, comme j'ai un ego surdimensionné, je me suis dit, oh, là, tout le monde parle de Maslow, de Maslow. Eh bien, pourquoi ne parlerait-on pas de Shapiro? Et c'est pour ça que j'ai imaginé la pyramide des désirs de Shapiro qui commence par l'inattendu. Et c'est quand vous faites un site, quand vous avez une démarche de communication, soyez au départ inattendu. Et quand nous faisons des actions de communication et du marketing direct, nous, pour nos clients, nous essayons toujours d'y associer un produit inattendu, une démarche. Vous voyez, par exemple, nous avons travaillé pour Atos. Eh bien, nous avons imaginé d'envoyer à des des cibles très sélectionnées une multiprise en disant branchez-vous sur Atos. Donc, vous voyez que si au départ, vous essayez de créer une démarche inattendue, vous suscitez l'envie. Mais l'envie, il faut ensuite qu'elle soit concrétisée par le rationnel. Donc, vous voyez qu'après l'inattendu, il y a l'émotion. L'émotion, vous la partagez, puis vous essayez de créer une sorte de communauté de clients, une communauté de prospects, jusqu'au, je dirais, le désir au fond ultime de tout client, c'est le désir de valorisation de soi. Alors, quelle est la démarche pour trouver le positionnement? Ça, c'est notre ADN. Je dirais que c'est une des grandes parties de notre activité. C'est de trouver le positionnement différenciateur et la signature qui y va. Donc, dans l'inbound marketing, il faut, à mon sens, avoir toujours des démarches incitatives. Je vais vous dire pourquoi. Et donc, voilà, je vous propose de trouver un positionnement par cette méthode. Alors, quelle est cette méthode? Alors, moi, je me suis rendu compte que quand vous réunissez autour d'une table des directeurs, le COMEX, le CODIR ou des dirigeants marketing, commerciaux, eh bien, vous avez toujours des profils qui sont, à mon sens, divisés en quatre. Vous avez des gens qui sont très rationnels. Alors, moi, je veux qu'il y ait un positionnement qui dit ben, « voilà ce que nous faisons », etc. Et là, qui dit « ah non, 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 soyons affectifs, il faut mettre l'accent sur une plus-value émotionnelle ». Puis il y en a qui disent « ah non, il faut parler du résultat de l'action de ce produit ». Puis d'autres qui disent « ah non, il faut pouvoir vendre un produit en disant « ah, nous sommes les meilleurs pour créer tel ou tel produit ». Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, comme je suis ingénieur de formation et que j'aime bien les méthodes, j'aime bien la hiérarchie d'un certain nombre d'hypothèses, j'ai dit « on va essayer d'étudier les quatre approches, rationnelle, émotionnelle, altruiste et nombriliste ». Et voilà le mapping de positionnement. Donc, vous avez le territoire A qui met l'accent sur les plus-values techniques d'un produit, le territoire B qui met l'accent sur le bénéfice d'utilisation du produit, le territoire C qui met l'accent sur des arguments émotionnels et le territoire D qui met l'accent sur les plus-values internes à une société. Alors, pour être clair, je vais prendre un exemple aberrant. Imaginons que Renault ait créé une nouvelle voiture, une nouvelle Clio, qui aurait par exemple 8 airbags à balavaris et une calandre en or massif. Bon, si je suis dans le territoire A, quel est le positionnement de la voiture? C'est de dire, achetez cette voiture, car c'est la seule sur le marché qui propose 8 airbags et une calandre en or massif. Vous avez mis l'accent sur des plus-values rationnelles. Si je suis dans le territoire B, ah non, il faut mettre l'accent sur le bénéfice. Achetez cette nouvelle Clio, car c'est la seule qui vous propose un maximum de sécurité avec un look avant-gardiste. Voilà. Et si je suis dans le territoire, si je suis dans l'affectif, en général, quand on est dans l'affectif, on parle de celui qui achète ou celui qui décide. Dans ce cas-là, on dirait, ah, si vous achetez la nouvelle Clio, vous pouvez, vous, conducteur ou vous acheteur, vous prévaloir d'être un homme particulièrement sensible à la sécurité et à l'avant-garde moderniste. Si je suis dans le territoire D, je parlerai de Renault. Achetez cette voiture, car c'est la seule qui a été construite et conçue par des passionnés d'automobile, aussi bien les ouvriers que la maîtrise et que les ingénieurs. Donc, vous voyez qu'avec le même produit ou la même entreprise, nous avons élaboré quatre positionnements. Alors, me direz-vous, quel est le bon positionnement? Eh bien là, je vous répondrai à votre bon cœur, messieurs, dames. C'est à vous, dirigeants, à choisir parmi les quatre le positionnement qui vous semble le plus en affinité avec le marché et le plus en affinité avec votre propre caractère. C'est-à-dire que là, comme je dis toujours, le positionnement, ce n'est pas une vision du rétroviseur. Ce n'est pas le regard derrière après des études et des études de besoin. Le positionnement est un acte volontariste. Donc, c'est vous qui décidez, mais en fonction, bien sûr, de critères marché et de critères produits. Mais c'est vous qui avez l'acte du choix parmi les quatre positions. Ceci étant, il ne faut pas rejeter les trois autres que vous avez délaissés. Ils peuvent s'adapter très bien à des cibles particulières. Et donc, voilà, je trouve l'avantage d'un mapping de positionnement et l'avantage du choix d'un positionnement grâce à cette méthode. Voilà. Alors, comme je le dis, le positionnement apporte au corps de l'entreprise la logique du cerveau et l'émotion du cœur. C'est-à-dire qu'en général, il faut trouver un équilibre entre la vision émotionnelle et les réalités rationnelles. Alors, j'aime bien le principe Carthago dès l'Inde Est, c'est-à-dire, vous savez, enfin, je vous raconte l'anecdote, vous savez comment a été détruite Carthage, c'est-à-dire que les Romains avaient très très peur d'Hannibal. Et alors, ils avaient peur de faire la guerre à Hannibal. Et il y avait un sénateur, Caton l'Ancien, qui disait, il faut détruire Carthage. Ah, non, non, j'ai pas envie. Eh bien, que faisait Caton? Quel que soit le discours dans la cité, qu'il parlait d'alimentaire, qu'il parlait de l'armée, qu'il parlait de l'économie, il terminait toujours ses discours Carthago de l'Inde Est. Il faut détruire Carthage. Et l'histoire a voulu qu'un jour, les Romains ont levé une armée et ils ont détruit Carthage. Alors je dis ça parce que quand vous avez un bon positionnement, une bonne signature, une bonne identité de marque, une bonne ligne éditoriale, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez. Comme nous, notre signature, c'est l'inbound marketing en tête, eh bien, je le répète partout. Voilà. Alors, je vous donne un exemple. Le cas qui est assez amusant, même, vous allez voir, de l'Institut hospitalier franco-britannique. Alors, voilà un hôpital qui se trouve à côté de nos locaux, hein, qui se trouve à Levallois. Et à Suresnes, où nous sommes, il y a un autre hôpital qui s'appelle l'hôpital Foch. Alors, l'Institut hospitalier franco-britannique m'a consulté et il m'a dit, vous savez, on n'a pas assez de subventions de l'État. Bon, alors, et pourquoi? Eh bien, parce qu'on a de moins en moins de clients. Je dis, comment, de moins en moins de clients? Qu'est-ce que c'est le mot client? Vous voulez dire, vous avez de moins en moins de patients. Non, 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 je dis bien ce que je dis, nous avons de moins en moins de clients. Et pourquoi vous dites ça? Parce que l'État nous donne une subvention en fonction du nombre de patients qui viennent chez nous. Et alors, pourquoi vous n'avez pas assez de patients? Eh bien, vous savez, l'hôpital Foch, là, le bel hôpital Foch, ils nous prennent tous nos clients. Ah! Alors, je suis allé voir ce que disait l'hôpital Foch pour, soi-disant, être différent. Alors, si vous allez voir sur le net la signature, le slogan de l'hôpital Foch, c'est l'hôpital Foch, notre vocation, vous soigner. Ah, j'ai dit, heureusement, qu'est-ce que voulez-vous qu'ils fassent d'autre? Alors, nous avons essayé de trouver une autre démarche différenciatrice. Et là, on s'est dit, ce n'est pas le soin qu'il faut mettre en avant, parce que ça, c'est l'évidence. C'est ça, c'est le besoin de base. On a mis en avant, regardez ce qui est écrit, au-delà de l'excellence de leurs soins, les équipes de l'Institut hospitalier développent une véritable philosophie du care. C'est-à-dire, le care est une philosophie qui a été imaginée par des Anglais, qui consiste à mettre en avant la philosophie de la bienveillance et la philosophie de l'attention portée à autrui. Et nous avons mis en avant le bien-être associé aux soins. Donc, Jean-Luc. Et voilà, parmi ces logos, parmi ces signatures, ben je fais un jeu. Il y a un des cinq logos qui a été choisi par donc l'hôpital. Alors, quand je suis en cours, je fais gagner, vous voyez, même un livre que j'ai sous la main. Mais là, je vais vous donner la solution. Parmi les cinq logos, celui qui a été choisi, c'est celui où il est écrit au-delà du soin, vous comprendre. On était tout à fait dans l'expression du positionnement de l'IHFB, c'est-à-dire de mettre l'accent sur le bien-être, hein, au-delà du soin, vous comprendre, pour montrer l'attention portée aux patients. Et le résultat, Jean-Luc, voilà le logo avec sa signature. On continue. Et ce que je vous engage aussi à faire, c'est quand vous avez trouvé une belle signature qui justement est incitative, n'oubliez pas d'écrire un manifeste, d'écrire un livre blanc qui souligne les éléments différenciateurs qui illustrent votre différence. Et voilà le site. Alors, vous voyez que même dans l'expression du site, c'est pour ça que le positionnement est l'élément fondateur de toute votre communication. Parce que vous voyez le site, il y a les couleurs pastel, il y a des expressions beaucoup plus, je dirais, subtiles de la philosophie du care, il y a un visuel qui est attentif et il y a des expressions qui soulignent la volonté de l'IHFB de s'attacher au bien-être du patient. Alors, deuxièmement, eh bien, il faut valoriser votre marque. Effectivement, à partir du moment où vous avez trouvé le positionnement, vous êtes à même de valoriser pour la rendre incontournable. Voilà. Alors, j'aime bien une phrase d'Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Oui, il faut que vous déterminiez sur une ligne éditoriale cohérente, conforme, effectivement, au positionnement choisi. Alors, voilà des signatures que nous avons trouvées pour nos clients. Alors, vous voyez, par exemple, IHSB, au-delà du soin, vous comprendre. Et Soyuz, qui est une plateforme liée à l'intelligence artificielle et qui permet, par exemple, à IKEA, qui permet à des restaurations rapides de demander aux consommateurs ce qu'ils veulent avant, pour ensuite les conduire en fonction de leur choix vers le produit ou la prestation qu'ils désirent. D'où l'expression, effectivement, la réponse est dans la question, et puis que ce soit Épicentre ou Laponie. Mais ce qui est important, c'est de donner des signatures qui engagent la société, qui sont, comme je le répète encore, qui soient incitatives et pas simplement, moi je refuse les signatures du style telle société, la passion de tel ou tel secteur, ou le leader de tel ou tel secteur. Non, pour moi, la meilleure signature, c'est celle de Avis, qui a dit Avis, we try harder. Nous en faisons beaucoup plus. Oui, il faut montrer qu'une signature est un engagement. Alors, voilà ce que c'est qu'une identité de marque. Moi, si je vous engage, quand vous faites un dossier sur l'identité de marque, c'est-à-dire la plateforme de marque, ben, je vous engage à effectivement à mettre l'accent sur les différents points, positionnement, vision, ambition. Et ça permet de construire, voilà, la base fondatrice de votre ligne éditoriale. Au lieu du mot simplement style, je parle de personnalité, c'est-à-dire qu'il y a le style, le ton, le caractère. Par exemple, dernièrement, j'ai proposé à mes clients d'avoir le style d'Albert Camus. C'est-à-dire, comme Albert Camus écrit des phrases courtes, incisives, voilà, eh bien, on s'est penché, on a relu L'étranger, et voilà, et puis on dit, on va s'adapter avec ce style. Voilà, c'est amusant en plus. Moi, je propose, voilà, dans les startups et l'inbound marketing, c'est un mariage d'amour et de raison. Alors, nous avons la chance, je ne sais pas s'il y a des startups parmi ceux qui m'écoutent, mais c'est vrai que nous venons de gagner 6 budgets de startups parce que j'ai proposé un package de startups qui correspond à le thème communiquer, c'est vendre. Alors, je ne sais pas s'il y a la suite. Si Jean-Luc, vous pouvez avancer. Alors, et ben voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est vrai que dans ma tête, pour une startup, l'important, c'est de vendre. Alors, comment? Alors, voilà, eh ben, pour cela, il y a 7 points qui me semblent très importants et que nous appliquons. Je vous propose, si vous le voulez bien, alors même nous avons, je dis, alors vous voyez, c'est pour être amusant, nous avons 3 types de prix, je le dis de manière assez humoristique. J'ai le prix Airbus. Bon, le prix Airbus, je ne vous le dis pas parce que pour Airbus, nous avons eu des devis assez étonnants. Ensuite, nous avons un prix pour la PME. Et puis, nous avons un prix pour les startups. Donc, chaque fois, nous divisons par deux pour pouvoir s'adapter effectivement aux besoins de nos clients. Alors, premièrement, je vous propose de faire un atelier de positionnement. Il faut créer la différence. Deuxièmement, il y a matière de l'extraction de la donnée. Alors, une astuce que je vous propose pour extraire les données à très, très, très faible prix, je vous propose d'utiliser le logiciel Wallaxi. Je ne sais pas si vous le connaissez, ça permet sur LinkedIn, à des très faibles prix, de créer une relation avec des prospects intéressés par votre activité. Alors, vous pouvez même automatiser un certain nombre de in-mails, comme ils disent, et pour des sommes, je ne l'ai pas en tête, mais vraiment ridiculement basses, vous pouvez créer un volant d'extraction des données. Nous, nous le faisons très souvent. Voilà, si ça s'écrit WA. L-A-A, je sais qu'il y a deux fois A, WALAAXY. Voilà. Alors, ensuite, au niveau de l'inbound marketing, de trouver une stratégie d'appât, c'est-à-dire un audit gracieux, une démo, à vous de voir. Et puis, aujourd'hui, je me fais l'avocat du diable. Moi qui étais un excité de l'inbound marketing, Je trouve qu'il faut aussi utiliser l'outbound, les actions marketing direct. Et vous voyez ici, on a mis une petite photo où il y a pour Laponie, qui est notre plus grand succès, qui est une start-up qui mettait en relation des collaborateurs disponibles et des managers qui cherchaient à compenser l'absentéisme dans leur activité, comme je dis, le retail, la restauration rapide. Eh bien, nous avons fait un site, nous avons fait un certain nombre de choses, mais on a envoyé à 150 dirigeants une action de marketing direct. Vous voyez le livre blanc. Alors, il y a une chose que je ne savais pas, qu'un de mes collaborateurs m'a découvert, c'est que vous pouvez faire une impression de lettres comme si c'était des lettres manuscrites. Donc, on a l'impression de recevoir une lettre manuscrite alors que c'est évidemment imprimé. Et puis, une enveloppe assez amusante, une enveloppe inattendue. Là, c'est une enveloppe japonaise. Et sur cette base d'action de marketing direct, donc il y a eu 150 envois et mon client a eu 12 rendez-vous en présentiel, ce qui lui a permis de créer un volant d'affaires. Alors, comme je dis, stratégie LinkedIn en B2B, bon, ça, il y a plein d'actions possibles outre le Wallaxy. Stratégie webinar, quand vous avez une technologie qui vous est, ou une méthodologie qui vous est propre, nous faisons beaucoup de webinars. Et puis, effectivement, le marketing automation, si vous ne voulez pas faire ça manuellement. Donc, voilà comment, dans une start-up, vous pouvez réussir. Et moi, j'ai maintenant des cas assez amusants de réussite avec cette démarche-là. Donc, vous voyez, si je résume, il y a 4 points. C'est l'atelier de positionnement pour savoir qui vous êtes. Deuxièmement, l'extraction des données. Troisièmement, le digital avec effectivement LinkedIn. Et quatrièmement, le marketing direct. Alors, je vous engage effectivement à mettre en valeur vos dirigeants parce que c'est des profils LinkedIn, parce qu'ils sont porteurs de l'image de la société. Alors voilà, vous voyez ma propre, nous avons, j'espère, fait une démarche assez intéressante sur mon propre profil pour attirer les gens sur l'inbound marketing. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant là encore, c'est les webinars. Nous-mêmes, vous voyez, nous avons imaginé les 10 nouvelles lois de l'inbound marketing avec, nous faisons un webinar par mois. Et alors, je vous invite là encore une astuce, pas une astuce, mais je dis du bien d'un partenaire qui dispose de toute la logistique du webinar qui s'appelle Livestorm. LiveStorm, parce que quand vous travaillez avec eux, eh ben, ils vous préparent pratiquement toute la démarche, avant, pendant, après, le rappel des gens qui veulent participer au webinar, le replay, ensuite le replay, le mail de remerciement. C'est une société qui a bien maîtrisé toute la logistique de la communication sur un webinar. Voilà. Et puis, un format que je trouve intéressant sur LinkedIn, c'est le carrousel, parce que vous pouvez dire un certain nombre de choses au lieu d'avoir simplement une seule image. Alors, effectivement, moi, je trouve que les annonceurs sont trop gentils. Il faut exiger de l'agence des tableaux de bord. Et puis même, c'est une question même de test and learn, de savoir s'il y a des choses qui sont moins bonnes, il y a des choses qui sont meilleures. Il y a l'obligation, et alors on l'oublie de temps en temps, demander à votre agence un tableau de bord. Voilà des exemples. Alors, nous avons ça, des KPI de notoriété, d'acquisition, et puis on les remplit tous les mois. Alors, par humour, je dis adopter la cuisine japonaise, parce que moi, j'aime bien le tofu. Et là, je vous suggère le tofu, le mofu et le bofu. C'est-à-dire que quand on veut ça, dans le digital, c'est un inventaire à la Prévert. Vous pouvez faire 2 millions de choses. Alors, simplement, je dis aussi, mon côté ingénieur, suivez le parcours client et devant chaque étape du parcours client, voilà, vous avez la possibilité d'adopter telle ou telle action digitale. Le tofu, c'est le top of the funnel, le mofu, c'est le middle of the funnel et le bofu, c'est le bottom of the funnel. Alors voilà, choisissez, mais en général, je propose un certain nombre d'actions digitales selon le parcours client. On n'est pas obligé de tout faire, mais ça permet de suivre le parcours client. Effectivement, on est dans Internet. Alors, comme de même que l'inbound, c'est pour moi la fondation du marketing et le positionnement, c'est la base de la démarche marketing, je vous invite évidemment à vous positionner sur le site et le blog et de les considérer comme des inséparables, car le blog permet d'améliorer le référencement. Alors voilà l'exemple de notre plus grand succès, c'est Laponie. J'ai dit plus grand succès parce que pour moi, j'ai eu un petit problème, j'étais l'agence de Laponie, et Laponie, ça a eu un tel succès qu'ils se sont vendus très, 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 très cher à un grand groupe qui s'appelle CGDIM, après les succès qu'ils ont eus. Alors, voilà la page d'accueil. Et dans la page d'accueil, on met en général la phrase qui constitue la signature de la société, révéler la force de votre équipe. Avec nous, on a trouvé un graphisme minimaliste. Mais pourquoi je montre cette page? Parce que là, c'est encore une de mes principes. Regardez si vous pouvez lire la barre de navigation. Il est écrit « Je suis collaborateur, je suis manager ». Puis après, notre divin. Pourquoi je montre ça? Parce que d'habitude, et ça m'énerve, les sites ont comme barre de navigation notre plus-value, qui nous sommes, ce que nous vous proposons, notre offre. Bullshit. Il faut commencer par les enjeux et les désirs des clients. C'est à eux qu'on s'adresse. Il ne faut pas regarder son nombril. Là, Laponie a deux clients, a deux types de clientèle. Les collaborateurs d'une société et les managers d'une société. Alors, on écrit « Je suis collaborateur, je suis manager ». Et quand on clique sur « Je suis collaborateur », qu'est-ce que cherche un collaborateur qui a envie d'être disponible et de travailler un peu plus? Eh bien, nous avons écrit, j'ai fait des interviews, nous avons écrit « J'ai envie de gagner davantage d'argent ». Alors on commence comme ça. Et quand vous irez sur Laponie, si vous cliquez sur « Je suis manager », le manager qui, dans la réalité, dans les boîtes de restauration rapide, est obligé de compenser l'absence de tel ou tel collaborateur. Et moi, j'ai interviewé des managers qui travaillent 18 heures par jour pour remplacer le cuisinier, pour remplacer le comptable, Eh bien, grâce à Laponie, enfin grâce à cette plateforme, puisqu'il trouve un collaborateur immédiatement, enfin, j'ai écrit sur le site, enfin, j'ai la chance de faire mon job. Eh bien, c'est comme ça qu'on commence. Et ensuite, la solution, c'est cette société. Donc, je vous engage à avoir une barre de navigation qui commence toujours par les préoccupations de votre cible. Et alors, de là, je vous engage à faire un manifeste, parce que le manifeste va représenter la différence de cette boîte, le positionnement. Et ensuite, avec ce manifeste, vous pouvez évidemment le faire télécharger, donc ça donne un fichier plus élargi, et puis vous pouvez en faire une action de marketing direct.
Qu'est-ce qu'on met dans un manifeste?
Alors, pour moi, ce sont toujours des engagements. Alors, les gens me parlent des valeurs. Moi, je suis encore, c'est mon côté. Le mot valeur, il y a un côté élitiste. Et alors, on a envie de mettre comme valeur, je suis honnête, ouais, je suis disponible, je vous aime. Non, moi, je trouve, dans ce manifeste, il y a des engagements de Laponie vis-à-vis de ses clients. Alors, avec d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai, il y en a une page après, on met « vous voulez ça », non, il n'y a pas « vous voulez ça », nous avons la possibilité de vous l'apporter, « vous », et effectivement, moi je pourrais d'ailleurs à ceux qui le souhaitent, envoyer le livre blanc de Laponie, et il y a 10 engagements de Laponie sous la forme de, un exemple de mémoire, j'ai dit « vous ne voulez pas attendre », ça parle donc justement là au manager des restaurants, vous ne voulez pas que vos clients attendent plus de 3 minutes à la caisse. Et là, nous avons la solution. Vous voulez que vos collaborateurs aient un esprit de solidarité. C'est-à-dire qu'on met l'accent toujours sur le désir et le besoin du client et puis avec la solution. Et mais en général, je préfère moi le terme d'engagement au terme de valeur.
Ouais, je suis assez d'accord avec, ça.
Voilà. Alors, formez vos équipes à l'inbound marketing, au gross hacking. Alors, gross hacking, c'est le terme élégant pour extraction des données. Mais voilà, j'estime que si vous avez la possibilité d'associer l'inbound marketing, c'est faire venir à soi les clients, à l'ABM, qui est account-based marketing, c'est la gestion des grands comptes, via effectivement l'extraction des données d'une manière ou d'une autre, eh bien, vous avez effectivement une équipe de fortes compétences. Alors voilà, oui, nous avons un centre de formation, et donc je leur dis, enfin aux clients, à chez nous comme ailleurs, formez vos équipes à la trilogie du succès. Alors, maintenant, il y a une démarche tout à fait nouvelle qui, pour moi, est une source d'information et je suis très content de m'y appliquer. C'est choisissez l'hyper-personnalisation via l'intelligence artificielle. Et là, il y a même un débat aujourd'hui, un grand débat, qui me perturbe d'ailleurs, qui s'appelle le chat GPT. C'est-à-dire, grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez faire écrire vos textes, vos articles par les logiciels, par exemple celui-là, de l'intelligence artificielle. Alors moi qui aime écrire, parce que j'écris, bon, j'ai une autre passion, c'est le théâtre, j'écris des pièces de théâtre, j'ai écrit des romans, j'écris des scénarios de films. Alors évidemment, moi qui adore la littérature et qui adore l'écriture, quand je vois apparaître un robot qui me mange dans ma main, je suis un peu malheureux. Mais on peut jouer sur les deux, parce que j'ai fait écrire par l'intelligence artificielle, des articles sur des thèmes de mes clients. Heureusement pour moi, comme je le dis avec humour, l'intelligence artificielle n'a jamais et n'écrira jamais L'étranger de Camus. Donc, on peut avoir effectivement des textes, mais il n'y a pas, oh là là, il n'y a pas de style, il n'y a pas de caractère, il n'y a pas de ton. Donc, oui, pourquoi ne pas commencer à avoir de la matière première via l'intelligence artificielle, mais prenez un bon copywriter pour donner au texte du ton, du style, de l'humour, etc. Mais ça permet effectivement d'hyper... Alors, les quatre domaines sur lesquels j'ai utilisé de l'intelligence artificielle, c'est l'assurance, l'industrie, l'automobile et le tourisme. Et dans le tourisme, par exemple, on a été consulté par l'Office du tourisme des Gorges du Verdon, que je ne connaissais pas, et qui est magnifique. C'est un endroit en France qui est sublime. Eh bien, grâce à l'intelligence artificielle, le touriste arrive à l'Office de tourisme des Gorges du Verdon et il dit, voilà, est-ce que vous pouvez me conseiller pour j'ai 3 jours à rester. Alors, ce que faisait avant un office de tourisme lambda, c'est dire, ah ben, vous avez tant d'églises, vous avez tant de forêts, vous avez tant de lacs, vous avez... Et aujourd'hui, vous posez des questions aux touristes, vous dites, bon, vous venez avec votre famille, vous êtes plutôt sportif ou rêveur, vous voulez habiter à l'hôtel ou dans une caravane. Donc, vous répondez, le touriste répond, moi je l'ai fait l'exemple, l'exercice à 7 ou 8 questions, et l'intelligence artificielle mouline, et l'intelligence artificielle vous sort un parcours dédié spécifiquement au désir et à la personnalité du touriste en vous disant, le lundi vous pouvez faire ça, ça et ça, le mardi vous faites ça et ça, mercredi ça, vous habitez dans tel hôtel, vous garez votre voiture à tel endroit, vous avez un parcours dédié spécifiquement au désir du touriste. C'est de l'hyper-personnalisation. Alors ça, vous pouvez l'adapter à beaucoup d'autres cas. Bon, ça c'est habituel. Je suggère, ça ne se fait pas encore si facilement, d'associer le département marketing au département vente pour que chacun puisse bénéficier de la compétence de l'un et de l'autre. Et alors, il y a un mot qui est apparu, que je ne connaissais pas, et qu'on appelle « smarketing ». Voilà. Ethos, c'est l'art de valoriser le conférencier, de valoriser la personne vis-à-vis d'autrui. Et alors, nous avons utilisé cet acronyme pour dire dans le domaine de l'account-based marketing, c'est-à-dire la gestion des grands comptes, des comptes très sélectionnés, je vous engage à utiliser l'étonnement. Voilà, je l'ai fait avec Atos et la multiprise, de toujours suivre ce que l'on fait, de rappeler, d'avoir une démarche humaine. Il faut, vous voyez, pour même, je le dis encore, pour une de nos sociétés, dans un autre moment, on a mis comme signature 100% digital et 100% humain. Bon, ça fait beaucoup. Non, je vous invite toujours à avoir un petit peu d'impertinence parce que ça donne du piment à une communication. Ensuite, ongoing, c'est-à-dire qu'on suit effectivement les actions avec de la outbound, avec LinkedIn, et puis de créer le partenariat en alignant les sales et le marketing. Voilà. Alors, si vous le permettez, dans un de mes bouquins, je crois que l'avant-dernier, je parle des 4 valeurs du désir. Et les 4 valeurs du désir pour être désirable, même je me permets de le dire, sur le plan personnel comme sur le plan professionnel, quelles sont ces 4 valeurs, si je me permets de vous les suggérer? Premièrement, c'est pratiquer l'humour. Deuxièmement, c'est créer l'intrigue. Troisièmement, c'est provoquer l'inattendu. Et quatrièmement, c'est susciter la séduction. Je me permets de répéter, parce que j'y crois beaucoup. C'est donc pratiquer l'humour. Et les verbes ont leur importance. Moi, je pratique l'humour presque à la manière américaine, avec des jokes. C'est pour détendre même une relation professionnelle, parce que quand vous pratiquez un humour, je dirais bien à propos, eh ben, la relation devient beaucoup plus sympathique. Donc, pratiquer l'humour, créer l'intrigue, ne pas tout dire, provoquer l'inattendu, et susciter la séduction. Eh bien, dans nos écrits, dans mes articles, dans les démarches que je mène, eh bien, je le fais très souvent. Pour... Vous voyez, par exemple, j'étais dans une réunion de networking. Alors, dans une réunion de networking, vous avez 300 personnes, vous changez de table. Enfin, il y a un petit côté comme ça, un peu rituel, qui quelquefois m'agace. Mais comment, Shapiro, tu peux être différent que les autres? Bon, parce qu'il faut, vous savez, bon, vous devez connaître, tous les 15 minutes, on change de table, on est là-bas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, alors, j'ai raconté mon histoire sur l'inbound marketing, et puis j'ai dit, j'étais le seul. Ah, mesdames et messieurs, moi, si vous le voulez bien, vous allez gagner notre propre manifeste, notre livre blanc. Mais, il y a 8 personnes autour de la table, il n'y a qu'une seule personne qui va gagner. Alors, vous voyez, je vous le montre, c'est ça, notre manifeste. C'est une main toute seule, ne peut t'applaudir. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour faire gagner, et de manière, parce que je ne pouvais pas le donner, même, voilà, soit à la personne qui était en face de moi, soit si j'avais dit, bon, je vais donner le manifeste à la personne la plus belle. Bon, ça pouvait créer des tensions. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Mesdames et messieurs, je vais vous poser une question, et je l'ai posée. Tiens, je vous la pose, Jean-Luc. Pour gagner mon manifeste, vous pourrez l'avoir de toute manière, mais bon, aux autres. Tiens, si les gens me l'écriront ou vous l'écriront, j'ai dit, voilà, dans le livre L'étranger de Camus, auquel je relis souvent parce que je le trouve magnifique, si vous prenez la première phrase de L'étranger de Camus, Camus a écrit « Aujourd'hui, maman est morte, point, ou peut-être hier » ou a-t-il écrit « Maman est morte aujourd'hui, point, ou peut-être hier. » Celui qui trouve la bonne phrase a le livre. Alors, Jean-Luc, qu'est-ce qui a été écrit par Camus? Aujourd'hui, maman est morte, point, ou peut-être hier. Ou a-t-il écrit Maman est morte aujourd'hui, point, ou peut-être hier?
La deuxième.
Moi, j'en dis la première.
Alors, vous avez dit la deuxième, Jean-Luc?
Non, j'ai dit la première. C'est Pierre-Antoine qui a dit la
deuxième. Eh bien, je vais vous donner la solution. C'est Jean-Luc qui a gagné. Ah. Parce que Camus, justement, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait la suite. Maman est morte aujourd'hui ou peut-être hier, mais il a voulu faire, je pense, un paradoxe. Il a commencé par « Aujourd'hui, maman est morte, point, ou peut-être hier. » Eh bien, Jean-Luc, je vous renvoie, vous avez gagné le livre blanc.
Merci beaucoup.
Alors, pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai dit ça, et bien, normalement, tout le monde s'est excité autour de la table et voulait savoir. Nanana. Et donc, j'ai eu je pense que les gens ont plutôt mémorisé mon intervention que d'autres. Voilà.
Ben, je suis d'accord.
C'est un élément inattendu. Alors, voilà, on a fait ça aussi. J'ai trouvé sur Amazon, enfin, pas Amazon, sur Le Bon Coin, ou je ne sais pas, une société qui vendait des trucs où il y avait des nœuds. Et alors, on a envoyé, vous voyez, le phénomène d'étonnement, on a envoyé un nombre privilégié de PDG ce tableau avec ses nœuds en disant « Je désire nouer des liens avec vous ». Et ça a très bien marché.
Ouais.
Alors, innover, c'est vrai que toute société doit intégrer des réunions, moi j'appelle ça les réunions VIP, mais ce n'est pas VIP au sens VIP, moi j'appelle ça Value Innovation Program, d'avoir une fois ou deux fois par an une réunion pour dire qu'est-ce qu'on peut faire comme nouvelle offre pour donner justement du piment à notre prestation. Alors voilà, c'est ce que j'ai écrit, c'est désormais par l'offre que l'on suscite la demande et non l'inverse. Et puis, alors, on me dit souvent, mais est-ce que ça marche? Mais faisons du test and learn. Testons une nouvelle offre sur un cible limité, puis on voit le résultat. J'avais mis ça, j'avais trouvé ça dans la littérature. Ford, quand il a imaginé la T2, qui est aujourd'hui toujours la voiture qui a été la plus vendue dans le monde dans les années 30, il avait écrit, si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient à l'époque, j'aurais imaginé un cheval plus rapide. Eh bien, il a imaginé la T2 de lui-même. Moi, pour moi, il y a même deux éléments restrictifs. C'est que le premier, le client ne sait pas ce qu'il veut. Et quand il fait une analyse des besoins, c'est une analyse du rétroviseur. C'est-à-dire que les clients, ils disent, c'est ça, un cheval plus rapide. Ils ne peuvent que reproduire ce qu'ils ont dans leur esprit et dans le passé. Ils ont du mal, évidemment, à se projeter dans des actions innovantes. Alors, nous avions imaginé, voilà, pour un cas concret dans le domaine du B2B, nous avons comme client le cabinet Dorman, qui est un cabinet de recouvrement de créances. Et alors, Dorman disait, bon, le recouvrement, mais tout le monde fait la même chose. Il y a les procédures, il y a le truc amiable. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Alors, quand je suis consulté pour l'offre, j'ai imaginé cet aspect acronyme APA, avant, pendant, après. Et pour cette société, ben, on s'est dit, tiens, qu'est-ce que font les gens qui recourent au recouvrement de créances? Eh bien, parce qu'avant, ils n'ont pas fait une étude de solvabilité assez performante, ils n'ont pas suivi les factures, ils n'ont pas créé un lien avec la société. Alors, on a imaginé pour eux un service de renseignement commercial, un service de suivi des factures pour élargir l'offre et pour englober le recouvrement de créances dans un ensemble plus cohérent. Alors, en général, pour trouver une nouvelle offre, moi, ce que je propose, c'est de faire des interviews chez des clients pour dire qu'est-ce qui se passait avant que vous utilisiez telle ou telle prestation, qu'est-ce qui se passe pendant et qu'est-ce qui se passe après. Alors, enfin, par humour, je dis, bon, c'est vrai qu'on est un peu dominé par les geeks digitaux qui disent il faut faire ça. Moi, je dis que de refuser de manière humoristique la dictature des geeks, le digital n'est pas une fin en soi, le digital est un moyen. Alors, voilà, par exemple, vive le Figital pour la société, justement, pour l'Office du tourisme des Gorges du Verdon. Eh bien, on a utilisé, bien sûr, l'intelligence artificielle, mais nous avons fait pour un certain nombre de partenaires de l'Office du tourisme du Verdon une manifestation où nous avons mis l'accent sur la différence de les Gorges du Verdon, qui était le romantisme époustouflant et grandiose. Et nous avons fait jouer deux acteurs le rôle de touristes potentiels. Et pour terminer, c'est une belle phrase d'Héraclite, rien n'est permanent, mesdames et messieurs, sauf le changement. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à lire, non pas le dernier livre, moi je préfère l'avant-dernier livre, c'est mon chouchou, qui s'appelle Inbound Marketing au quotidien, parce que je trouve que dans ce livre, vraiment, au quotidien, je suggère un certain nombre d'étapes pour mettre en avant le succès de l'inbound marketing.